Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Au propriétaire traditionnel de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffuserons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue, il est 13h à Melbourne, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, Thomas Mercier pour vous accompagner durant cette heure. Après votre journal, nous retrouvons Christophe Mallet et on fait le point sur le Giro, le Tour d'Italie, puis nous parlerons gâteaux, de très beaux gâteaux avec Sarah Valette. Et ensuite nous avons rendez-vous avec Lionel qui nous raconte son tour d'Australie à vélo pendant un an au micro de SBS. Mais tout de suite, c'est votre journal. Les titres de ce samedi 14 mai, Scott Morrison a annoncé plus de 20 millions de dollars dédiés au sport dans les écoles et pendant ce temps-là, l'opposition, Anthony Albanese, promet une amélioration de la qualité des soins et une meilleure prise en charge des patients, promettant un versement de 750 millions de dollars à Medicare. Le Queensland est à nouveau menacé par d'importantes inondations et enfin, la Finlande et la Suède souhaitent intégrer l'OTAN. La Turquie, membre de l'Alliance opposée, a opposé une fin de non-recevoir. Et on commence tout de suite avec la campagne électorale en Australie qui suit son cours. Le Premier ministre Scott Morrison a annoncé 20 millions de dollars dédiés au sport dans les écoles. Ce budget a pour rôle d'aider les écoles à inciter les enfants à faire plus de sport et ainsi leur permettre de participer à des activités sportives au sein de la communauté. Ce financement supplémentaire cible les élèves des années 9 et 10 et inclura 700 000 autres enfants dans le programme, ce qui fera un total de 2,9 millions d'élèves. Selon Scott Morrison, le programme a pour objectif d'améliorer la condition physique des enfants, mais c'est aussi l'occasion de se faire des amis.
Now this program is really important. We want our kids to grow up with a healthy lifestyle. They don't have to be great sporting champions. They just got to get out on the field. They've just got to be there with their mates. They've got to have that experience because it's what builds lifelong friendships. I know that from my own experience.
Du côté de l'opposition, Anthony Albanese promet une amélioration de la qualité des soins et une meilleure prise en charge des patients, promettant un versement de 750 millions de dollars à Medicare. Le Strengthening Medicare Fund fournirait 250 millions de dollars par an sur 3 ans à partir de 2023, et ce jusqu'à l'exercice 2024. Ce fonds a été créé pour une meilleure prise en charge des soins médicaux complexes, ainsi que pour les patients ayant besoin d'un traitement de maladies chroniques. Le Parti travailliste prévoit également de mettre en place un groupe de travail dédié à l'assurance maladie. Ce groupe serait présidé par le ministre de la Santé, entouré d'acteurs de la santé tels que l'Australian Medical Association. 220 millions de dollars sera dédié à un programme de subvention consacré aux cliniques GP locales pour la modernisation de leur équipement et former leur personnel. La répartition des subventions serait de 25 à 50 000 dollars par cabinet médical. Ce week-end, le Queensland et plus particulièrement la côte sud-est et le centre de l'État vont faire face à de fortes pluies qui sont attendues, ce qui provoquerait une montée des eaux rapide. Hier, le Queensland, déjà frappé par d'importantes averses, enregistrait une montée des eaux importante, 160 mm en seulement 6 heures dans le sud-est de l'État. Les résidents dans les zones inondées ont été évacués autour de Ledley, Gyton, Gatham, dans la vallée de Lockyer, à l'ouest de Brisbane, au sud de Beaudesert, puis à Warwick, Cecil Plants, Millerman, Killarney et dans le Southern Downs. Environ 300 maisons ont été touchées à Ledley, où la rivière Lockyer est sortie de son lit et a atteint l'artère principale de la ville. Des alertes inondations ont été lancées pour les rivières Condamine, Logan, Bremer et les ruisseaux Warhill, Ledley et Lockyer, la ville frontalière de Goindi. S'attendent également à des inondations près du bassin versant des rivières Border. Le thérapeutique Good Administration du gouvernement australien a confirmé qu'il évaluerait la possibilité d'administrer une faible dose du vaccin Spikevax COVID-19 de Moderna pour les bébés et les plus petits. Il n'existe actuellement aucun vaccin COVID-19 approuvé pour les enfants de moins de 4 ans. Les enfants âgés de 5 ans ont plus accès au vaccin et peuvent recevoir une faible dose du vaccin Pfizer. Spikevax est disponible pour les enfants de plus de 6 ans et Moderna a demandé à Therapeutic Goods Administration d'étendre ce vaccin aux enfants plus jeunes. Le TGA indique qu'il évalue une faible dose de Spikevax de 25 microgrammes dans 0,25 ml pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Pour information, les enfants de 6 à 11 ans ont une dose de 50 microgrammes en mesure de 0,25 ml actuellement. Relations toujours tendues entre le gouvernement chinois et australien. La Chine a répondu aux commentaires du ministre de la Défense, Peter Dutton, au sujet d'un navire de renseignement chinois voyageant près de la côte ouest de l'Australie. Monsieur Dutton avait qualifié il y a quelques jours cette mission du navire chinois de sans précédent et d'acte d'agression. Mais le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que la Chine n'avait pas enfreint le droit international. On écoute le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
I'm not aware of the specific circumstances about the episode you're addressing. What I want to tell you is that China has always abided by international law and practice. The relevant Australian politician should look at the relevant developments subjectively and calmly and not use frightening words just to cause alarm.
L'Australie a surveillé le navire pendant environ une semaine, navire qui a traversé la zone économique exclusive du pays, mais pas dans les eaux territoriales. Les États-Unis sont sur un autre front, celui de l'intégration de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Le président s'est entretenu avec la première ministre suédoise et le président finlandais. Joe Biden a évoqué le droit de ces deux pays à déterminer leur propre avenir, leur propre politique étrangère. Ces deux demandes d'adhésion ne font pas franchement l'unanimité au sein de l'OTAN. Marie Normand pour RFI.
La Turquie menace de bloquer l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Le président Recep Tayyip Erdogan reproche notamment aux deux pays nordiques d'héberger des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan, qu'elle considère, à l'instar de l'Union européenne et des États-Unis, comme une organisation terroriste. Une hostilité affichée que Washington dit travailler à clarifier, car dans ce processus d'intégration à l'OTAN, l'unanimité des États membres est nécessaire. La Maison-Blanche cherche à ménager la Turquie, qualifiée d'allié précieux, tout en faisant passer un message clair. Ces futures adhésions ont reçu un large soutien d'autres membres, tout comme celui d'ailleurs du secrétaire général de l'Alliance. Vendredi, le président américain Joe Biden s'est entretenu avec Helsinki et Stockholm, la Finlande et la Suède, qui disent vouloir aussi continuer de discuter avec la Turquie. Leur ministre des Affaires étrangères devrait se rencontrer ce week-end lors d'une réunion des chefs de la diplomatie des membres de l'OTAN à Berlin.
La Finlande qui doit officialiser sa candidature à l'OTAN dans les prochains jours, c'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, mais Helsinki a annoncé vouloir une adhésion sans délai, ce qui n'est pas au goût de la Russie. Moscou a annoncé par ailleurs qu'elle va suspendre dès aujourd'hui ses livraisons d'électricité à la Finlande. L'opérateur du réseau électrique finlandais a assuré pouvoir se passer des importations de courant russe. En Allemagne, suite à une attaque au couteau dans un train, un policier qui n'était pas en service est venu porter au secours des passagers blessés. Le train qui se rendait à Aix-la-Chapelle, dans l'ouest du pays, et c'est lorsque l'incident s'est produit. Selon les médias locaux, le suspect est un homme d'une trentaine d'années, originaire d'Irak, qui avait vécu dans un camp de réfugiés. La porte-parole de la police, Stéphanie Kutsch, a déclaré que le policier a arrêté l'agresseur.
Heute Morgen kurz vor 8 Uhr ist ein Mann im Regionalexpresszug nach Aachen auf mehrere Menschen losgegangen, hat sie mit einem
This morning at shortly before 8 a.m., a man in the local express train to Aachen attacked several people and injured them with a knife. A police officer who happened to be present and was traveling in civilian clothes intervened with several passengers and was able to overpower him and arrest him. We do not know anything about the injuries of the people at the moment. The people were taken to surrounding hospitals and are being treated there.
Et tout de suite, c'est la météo de ce samedi à Perth. Risque d'averse et 21 degrés. Adélaïde, programme similaire, 22 degrés. Melbourne, une vraie journée automnale, pluie et seulement 20 degrés. Hobart, prévoyez les parapluies. Les averses sont au rendez-vous, 18 degrés. Canberra, risque de pluie et 20 degrés. Sydney, ciel couvert et une journée agréable, 27 degrés. Brisbane, pluie et 25 degrés. Cairns, risque d'averse et 29 degrés. Darwin, alternance de nuages et éclaircies, et 33 degrés prévus au thermomètre. Le rappel des actualités de ce jour. Scott Morrison a annoncé 20 millions de dollars dédiés au programme des sports à l'école. L'opposition, Anthony Albanese, lui prévoit 750 millions de dollars à Medicare. Le Queensland est à nouveau menacé par d'importantes inondations. Et la Finlande, la Suède, souhaitent intégrer l'OTAN. Mais la Turquie n'est pas d'accord pour que ces deux pays rejoignent l'Alliance. Passez un agréable moment avec SBS.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Et tout de suite, c'est l'info sport sur SBS. On retrouve Christophe Mallet, qui est le spécialiste du vélo pour SBS. Bonjour Christophe Mallet.
Bonjour Thomas. Un des spécialistes. Hein. Je ne vais pas non plus prendre toute la couverture à moi. Hein. C'est important.
Alors, vous êtes actuellement en plein Giro. Comment ça se passe? Comment s'est passée la dernière étape?
Voilà, le Giro, c'est pour expliquer, c'est le Tour d'Italie. Les gens qui ne connaissent pas, c'est un des trois grands tours, juste pour remettre un peu en perspective. Il y a trois grands tours dans le monde du cyclisme. C'est un peu comme les grands championnats, comme la Champions League si vous suivez le football. Il y a le Tour d'Italie, le Tour de France et le Tour d'Espagne. Le Tour d'Italie, donc, s'appelle le Giro d'Italia en italien. Donc du coup, c'est une course qui dure depuis plus de 100 ans, donc c'est vraiment très historique, un peu comme le Tour de France. Et donc cette année, c'est la 105e édition du Giro. On est à peu près à une semaine depuis le début de cette course. Le Giro est parti de Hongrie, puisque cette année, les trois grands tours partent de pays autres que le pays hôte. Donc, on est parti de Hongrie et il y a donc quelques jours, on est arrivé. Alors, je dis c'est les coureurs, hein, parce que c'est vrai que moi, je suis en Australie, mais on va dire que je fais partie aussi de la caravane virtuellement. Eh bien, on est arrivé en Italie et le Giro, c'est une course qui est un peu spécifique parce que il n'y a pas vraiment de continuité dans les étapes. On va faire une étape plate, rapide pour les sprinteurs, suivie par une étape de montagne, suivie par un contre-la-montre, suivie par une autre étape de montagne. Enfin, voilà. Et dernièrement, l'étape du jour, donc d'hier soir, c'était une étape de montagne, la première vraie étape de montagne très vallonnée. Et là, on a vraiment pu voir eh bien, les vrais grimpeurs se batailler. Mais vraiment, c'est vraiment le début de la quête donc de ce Giro. Hein. C'est une course qui dure 3 semaines. Et donc là, hier, c'était la première vraie étape de montagne avec une domination d'équipe Jumbo-Visma et un Tom Dumoulin extraordinaire pour son coéquipier. Donc voilà, c'est vraiment les prémices de ce qui nous attend parce que là, on rentre dans une phase pour ce Giro qui va être très montagneux. Donc ça veut dire que ça va être très intéressant. C'est toujours des belles images de voir les montagnes, les Alpes et les montagnes italiennes.
Alors les Français dans tout ça, ça donne quoi?
Bah les Français, ça donne plutôt pas mal parce que il y a Romain Bardet qui est vraiment le gros favori français pour ce Giro, ce Tour d'Italie. Romain Bardet, il est 10e pour l'instant et c'est très intéressant parce que c'est un montagnard. Romain Bardet, il fait partie d'une équipe danoise hein, qui s'appelle DSM, mais il vient d'une culture des Alpes, il vient d'une culture de la montagne. Donc du coup, Romain Bardet, bah, c'est très intéressant qu'il soit 10e parce qu'il est vraiment à l'affût de pouvoir gagner l'étape et pourquoi pas même remporter ce Giro, ce serait carrément possible et ce serait une belle aventure parce que dans l'histoire, eh bien, il faut savoir qu'il n'y a que trois Français qui ont remporté le Giro de toute l'histoire des 105 ans, du Giro. Il y a Jacques Anquetil, il y a Bernard Hinault et Laurent Fignon, donc ça fait un bail.
Ah bah oui, des légendes en plus, de belles légendes.
Tout à fait.
Alors le Giro, c'est quand même très très proche du Tour de France puisque dans quelques semaines, les coureurs vont tout de suite enchaîner avec le Tour de France. Quelle particularité par rapport à l'Italie, la France, par rapport aux différents terrains? Alors la France, le Tour de France, c'est le tour mythique parmi les trois tours iconiques qu'on peut trouver dans le monde. Quelle différence on peut voir entre l'Italie et la France sur ces deux tours?
Alors, c'est vraiment deux tours complètement différents. C'est très rare que, c'est même quasiment impossible que les coureurs fassent les trois. C'est un grand débat ça dans le monde du cyclisme parce que c'est quand même des courses de trois semaines et que trois fois trois semaines ça fait trop pour les coureurs. Donc il y a eu un débat pendant un moment de réduire les grands tours à deux semaines pour pouvoir permettre aux coureurs de faire les trois. Mais bon, ça vu l'histoire et le poids de l'histoire dans le cyclisme, ça n'arrivera pas, je pense. Donc du coup, c'est compliqué pour les coureurs de se dire on va partir sur une saison complète. Donc ils choisissent souvent de faire le Giro ou le Tour de France, ou alors le Tour de France et le Tour d'Espagne. Et là, en l'occurrence, le problème qu'il y a, c'est que cette année, les tours sont très rapprochés. Donc là, vous voyez, on va terminer le 29 mai ce Tour d'Italie, et on rattaque le Tour de France le 1er juillet. Et donc voilà, ça veut dire que le temps de recovery est compliqué. Donc il y en a qui vont le faire, mais je pense que on pourra pas voir la personne qui sera vraiment combative pour gagner ce Giro. Ben, cette personne sera pas présent en France, ou alors ne sera pas présent pour être compétitif. Par contre, ce qu'on peut voir, et ce qu'on voit assez souvent, c'est le cas des sprinteurs. Donc on pense à Mark Cavendish, par exemple, le Britannique. Lui, Mark Cavendish, il va faire ce Giro. C'est pas sûr qu'il aille jusqu'au bout. Il va aller faire les étapes de sprint. Mais dès que ça va devenir un petit peu plus difficile, bon, ben, il va partir de ce Giro pour pouvoir se rendre sur le Tour de France frais et surtout essayer d'aller battre le fameux record d'Eddy Merckx. Donc, il y a vraiment une tactique autour. C'est très rare que les coureurs complètent les deux s'ils ont vraiment une aspiration de bien faire dans les deux. Alors, il y a aussi la question cette année de Mathieu Van Der Poel qui a dit qu'il finirait le Giro. Et il a aussi dit qu'il voudrait finir et être compétitif au Tour de France. Et lui, c'est un ovni, c'est toute une autre question.
Alors, c'est une info extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des coureurs qui prennent la décision de commencer un tour, de ne pas le terminer pour pouvoir assurer le prochain.
Ouais.
Ça, c'est assez incroyable. Oui. C'est vrai que physiquement, c'est très, très éprouvant, puisque le Tour de France, d'un point de vue météo aussi, d'un point de vue des différents niveaux, la montagne, le plat, etc., c'est un milieu quand même, la France, qui est assez difficile.
Ouais, l'Italie, honnêtement, c'est tout au plus difficile, parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, on n'est pas dans la bonne saison en Italie, donc en fait, on peut se retrouver... Il y a une montagne mythique, le Stelvio, en Italie.
Magnifique.
Une fois tous les deux ans, il passe le Stelvio, et une fois tous les quatre ans, bah, il y a de la neige. Et courir et partir en bas d'Italie où on est en bas au niveau de la mer, c'est une étape spécifique. On part au niveau de la mer, elle va peut-être faire 27-28 degrés. On arrive en haut du Stelvio, il y a de la neige. Donc c'est aussi très compliqué. Et vous le savez comme moi, Thomas, vous êtes un cycliste. Même simplement au niveau des vestimentaires, de se couvrir, de faire attention à la météo, de faire attention aux routes. On n'a pas le même choix de pneus. Enfin, et c'est des courses très, le Giro, c'est une course très 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 spécifique pour ça.
Alors le Stelvio, c'est magnifique, c'est un mont qui est splendide. On a l'équivalent avec le mont Ventoux, qui est très connu pour ses variations climatiques aussi. On a le Tourmalet, Christophe Mallet, qui est pas le... Exactement. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de voir ces coureurs. Moi, ce qui me marque le plus dans ce que vous me dites, c'est prendre cette décision de ne pas finir un tour pour pouvoir faire l'autre.
C'est stratégique, hein, les gars, ils sont là pour la saison, quoi. Ils sont pas là pour juste un événement spécifique. Ils sont vraiment là pour la saison, donc c'est assez commun, en tout cas chez les sprinters.
D'accord. Merci Christophe Mallet. On vous retrouve sur SBS On Demand ainsi que sur les réseaux sociaux en direct pour suivre le Giro, le Tour d'Italie, avec David McKenzie.
Ouais, tous les soirs à 18h. Merci Thomas.
Merci.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, aujourd'hui, on va parler de gourmandise et de gâteaux, mais des gâteaux incroyables. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et si vous suivez pas Sarah Valette, je vous conseillerais de le faire. Sarah Valette est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Gâteaux incroyables. Je crois que c'est une bonne description. Ils sont incroyables, vos gâteaux. Et comment en êtes-vous arrivé là? Parce que c'est des vraies œuvres d'art, vos gâteaux.
De base, moi, je suis autodidacte, en fait. Donc, ça a juste été un hobby, en fait. J'ai découvert ça quand j'étais encore en France, un an avant de quitter la France. Donc, c'était il y a à peu près 8 ans. J'ai toujours été créative. J'ai toujours cherché quel serait mon hobby préféré. J'ai essayé plein de choses et j'ai jamais vraiment trouvé mon truc jusqu'à un jour où, dans un magasin, j'ai trouvé un petit paquet de pâte à sucre. Et je savais pas du tout ce que c'était. J'ai juste vu que c'était 1 euro, que ça contenait du sucre, et je me suis dit, ça me va, j'achète. Et ensuite, j'ai fait quelques recherches sur Internet, et en fait, à l'époque, il y avait vraiment pas grand-chose concernant le cake design, surtout en français, en fait. Et j'ai juste vu que je pouvais étaler ça, mettre ça sur un gâteau. Et je me suis lancée, et en fait, là, j'ai vraiment découvert quelque chose que j'adorais, pouvoir... être créative, utiliser mes mains, mélanger les couleurs, les textures, les saveurs. Et en fait, j'ai vraiment adoré ça. Donc, j'ai commencé à faire quelques gâteaux pour moi, pour des amis. Et puis après, on faisait des petits échanges. Et jusqu'à un jour où on m'a demandé si je pouvais enseigner ce que j'avais appris, alors que ça faisait que quelques mois que je m'étais mise dedans. Mais donc, voilà, pendant un an, j'ai fait ça comme un hobby à côté de mon boulot.
D'ailleurs, votre boulot, il faut qu'on en parle parce que vous l'avez révélé il y a que quelques temps. En tout cas, moi, je vous suis depuis un petit moment, mais il y a que quelques temps que j'ai appris que vous étiez une ancienne policière de la BAC en plus. C'est donc la police sérieuse.
J'ai pas fait que ça. J'ai fait 6 mois, on va dire, en civil. Sinon, j'ai commencé. En fait, j'ai bossé 6 ans dans la police nationale en Île-de-France. Moi, je suis de Nancy à la base. J'ai commencé à Paris. J'ai fait 2 ans et demi, 3 ans sur Paris 1er, en fait, après avoir fait mon école de police. Je m'ennuie un petit peu. Du coup, j'ai demandé une mutation dans le 93. J'avais regardé sur Google quelles sont les villes les plus criminogènes de France. Et en fait, j'ai trouvé Aulnay-sous-Bois-Sevran. Je suis allée déposer, entre guillemets, mon application là-bas, et du coup, j'ai bougé en brigade spécialisée de terrain, ça s'appelait à l'époque. Donc c'était une brigade créée pour sécuriser les quartiers avec une tenue spéciale qui prend pas feu, pas mal d'équipements genre grenades, flashball et compagnie. Par la suite, j'ai fait 6 mois aussi, donc oui, dans une unité en civil, je suis retournée en brigade spécialisée de terrain sur la fin avant de prendre une disponibilité. Voilà ma petite histoire.
Ouais, elle est quand même impressionnante. Vous avez troqué la matraque pour le rouleau de cuisine.
Ouais, on peut dire ça.
Et qu'est-ce qui vous a amené en Australie, en fait? Parce que l'Australie, c'est quand même, ça reste loin. C'était un rêve, l'Australie? C'est une rencontre, c'est des rencontres, c'est un hasard, c'est un voyage? Chacun a un peu une histoire ici avec l'Australie. Tous ne viennent pas d'ici. Donc on a tous un peu une histoire un peu singulière quand même avec l'Australie.
Ouais, alors moi c'était vraiment mon rêve de petite fille en fait, depuis que j'avais probablement 6 ans, je crois. J'ai découvert ce que c'était que les koalas je suis tombée amoureuse des koalas, c'était mon animal préféré pendant toujours et j'ai toujours voulu voir des koalas en vrai et j'avais beau demander tous les ans à partir en vacances en Australie, mes parents refusaient. et en gros, je m'étais mise en tête que ce serait quand moi je serais grande, j'irai en Australie. Et puis un jour, j'ai vu dans une agence de voyage le prix pour faire un voyage en Australie et c'était juste hors de prix. Mais en gros, j'avais pas regardé les bonnes informations et je m'étais dit à ce prix-là, je vais travailler toute ma vie pour le jour où je serai à la retraite me payer un billet pour l'Australie. Et donc, je gardais juste ça dans un coin de ma tête. Et puis, un jour dans ma carrière, j'en ai eu un petit peu marre, j'avais besoin de prendre un break et mon partenaire à l'époque, il avait on va dire des facilités avec son emploi pour pouvoir quitter son emploi. Et du coup, je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, on fait une pause et puis on va voyager en Australie. De base, on s'était dit allez, on part 2-3 mois. Ensuite, on a découvert qu'on pouvait prendre Working Holiday Visa de 1 an. Et de là, j'ai fait une demande de disponibilité de 2 ans, du coup, auprès de la police nationale à l'époque. Donc voilà, je suis arrivée en Australie en tant que backpacker. J'ai fait mes farm work pendant 1 an. Et ensuite, deuxième année de Working Holiday Visa. Et en fait, une fois que j'avais fini mes farm work, je me suis dit, allez, je vais chercher un job, en fait. Un job normal, on va dire. Et en fait, à cette époque-là, une copine m'avait envoyé une annonce pour un cheesecake shop. Donc, c'est une franchise de gâteaux qui cherchait un cake decorator. Elle me dit, tiens, il cherche quelqu'un pour faire des gâteaux. Et je lui dis, ouais, c'est super, mais moi, je suis flic, en fait. Je fais pas de gâteaux. Enfin, c'est pas mon boulot, quoi. Et j'ai quand même appliqué pour ce boulot. J'ai fait un essai qui s'est très, très bien passé. Et j'ai eu le job, donc j'ai bossé là-bas pendant 6 mois en part-time, ce qui d'ailleurs m'a donné, on va dire, la confiance pour par la suite ouvrir mon propre business, en fait, parce que ça, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus facile en Australie qu'en France. Enfin, je pourrais y revenir plus tard. Et puis voilà, au fil des choses, je suis restée en Australie pour mon plus grand bonheur, parce que j'adore être ici, j'adore Perth. Et maintenant, voilà, ça fait un peu plus de 7 ans que je suis là.
Ouais, ça passe vite, hein. Ça passe vite. Et donc aujourd'hui, parlons un petit peu de ce business, parce que je vais revenir, je l'ai dit en introduction, mais les gâteaux que vous faites sont globalement incroyables. C'est en taille, en volume, en couleur, en forme, en design, un peu tout y est. Donc vous avez, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'il y a une canette de bière, il y a un avion, il y a vraiment du design super intéressant, super innovatif en fait dedans.
Ouais, alors voilà, ça c'est un peu ma spécialité, de faire des gâteaux en 3D. En fait, j'adore ça, ce côté créatif. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que, du moins à l'époque, on n'avait pas en France le cake design. Mais en fait, ça permet vraiment de faire toutes les formes qu'on veut. Donc en effet, des voitures, j'ai déjà fait des camions pour des mariages, pour des truck drivers. Ça laisse vraiment la possibilité de faire toute forme possible, en fait. Et c'est ça que j'adore, en fait. C'est le côté un peu construction, ingénieur, parce que des fois, il faut que je fasse des structures un petit peu dingues, en fait. J'ai déjà fait des gâteaux qui, par exemple, flottaient. Donc, ils n'étaient pas posés sur une table. Ils étaient accrochés à une structure en l'air qui doit être cachée, bien évidemment, en s'assurant que les parties métalliques, par exemple, ne sont pas en contact avec le gâteau. Donc, par exemple, quand je fais des gâteaux, je passe aussi pas mal de temps à Bunnings à trouver mon matériel avant même de cuire mes gâteaux.
Mais, c'est un peu le bricolage aussi, alors.
C'est ça, en fait. Enfin, dans ce que je fais après, tous les cake designers ne font pas du gâteau en 3D. Il y en a qui sont juste spécialisés en buttercream. Moi, en fait, c'est ce que j'adore. C'est le côté vraiment alambiqué de ces gâteaux. Et donc, oui, c'est quelque chose que, en France, on trouvait pas du tout. Et j'avoue que même maintenant, mes parents, ils ont toujours un petit peu de mal à comprendre ce que je fais ici. Ou des clients français. Je vois aussi, cette année, j'ai un client français qui est venu chercher une galette des rois en janvier, et j'étais en train de bosser sur un gâteau. Donc, c'est un gâteau haut, en fait, un cylindre, parce que ça, c'est la base de la plupart des gâteaux de cake design. Et il me dit, mais alors, c'est quoi ce gâteau? C'est un phare? Et pareil, mon père, il me disait, mais c'est quoi? C'est un chapeau haut de forme. Et en fait, c'est vrai que d'un point de vue français, c'est vraiment quelque chose de complètement différent, alors que ici en Australie, ça se fait quand même beaucoup plus. Mais oui, on n'est pas énormément de cake designers non plus à Perth à faire des gâteaux 3D. Donc ça, c'est vraiment ma petite spécialité, quoi.
Il y a des choses qui sont impossibles à faire, des choses qu'on vous a demandé qui sont impossibles à faire, ou vraiment dans vos têtes aujourd'hui vous êtes, il n'y a rien d'impossible, je suis capable de tout faire, ou je pense pouvoir avoir une solution pour tout?
Il y a des choses qui sont compliquées à faire. Il y a des choses que je ferais pas parce qu'on me demande, des choses qui des fois sont moches et j'ai pas envie de faire.
Oui. Ça c'est bien, ça. C'est la conscience professionnelle, c'est bien.
Voilà. Bon, je le dis pas comme ça. Mais non, il y a des choses qui sont quand même, des fois pas possibles. Alors des fois je propose à mes clients des idées auxquelles ils auraient même pas pensé et ça les surprend. Et j'avoue qu'il y a une fois, par exemple, où j'ai dit, ça va être compliqué. C'était une compagnie qui voulait, pour promouvoir un de leurs produits, en fait, avoir un gâteau qui ressemblait à un de leurs ustensiles. En fait, c'était une sorte de gros ustensile de cuisine, on va dire, qui ressemblait un peu à un entonnoir, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bah, je peux le faire, mais bon, il y aura pas grand chose à manger dessus, en fait. C'est ça le, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. C'est ce, certaines formes où il y aurait pas grand chose à manger dessus, quoi, on va dire. Mais sinon, dans l'ensemble, si, quasiment tout est réalisable. Bouteilles de champagne, enfin, ouais, c'est vraiment très, très divers ce que je peux faire et c'est ça qui est génial.
Et vous avez battu le record du gâteau le plus haut de l'Australie de l'Ouest, je crois.
Ouais, voilà. D'ailleurs, enfin, je sais pas en fait, je ne connais pas les chiffres de toute l'Australie parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un record vraiment officiel, on va dire. Il y a rien là-dessus. Donc pour sûr, c'est le gâteau de mariage, le wedding cake le plus grand de WA, mais c'est peut-être aussi celui le plus grand d'Australie, je ne sais pas. Et donc ce gâteau, je l'ai fait en octobre dernier et il mesurait 2,61 m.
Waouh, c'est énorme.
C'est énorme. Moi, j'avais dû louer un camion pour le livrer. C'était dans une grande ballroom au Crown Upper. C'était même moi, j'étais impressionnée pour le faire parce que normalement, moi, je bosse depuis chez moi. J'ai un home business et bah, faire des gâteaux de taille normale, on va dire, ça va. Mais un gâteau de cette taille-là, j'avais juste pas la place en fait de stocker tous les tiers de gâteau. Donc j'ai utiliser un cake studio à Cake Tins and Things et du coup je pouvais utiliser tout leur bench pour faire mes gâteaux en fait et de là bah je en fait la chose est que je n'ai pas vu mon gâteau jusqu'à ce qu'il soit monté au Crown, donc il était juste en morceaux, on va dire. J'ai tout mis dans le camion, j'ai tout emmené au Crown et c'est qu'une fois que j'ai posé le tout dernier étage du haut de mon escabeau où je suis redescendue et j'ai regardé de loin du coup mon gâteau et j'ai enfin vu ce que ça donnait, ouais.
Donc, et là ouais. Gros ouf de soulagement, non?
Même pas vraiment un ouf de soulagement, c'est plus de la fierté, ouais, franchement de la fierté à me dire j'y suis arrivée, quoi, parce que j'avais quand même passé presque 2 semaines dessus à bosser entre 8 et 15 heures par jour, même la nuit, j'en dormais pas parce que mon cerveau arrêtait pas de penser aux dimensions, au centre de gravité, enfin à plein de choses. Et du coup, j'ai vraiment eu 2 semaines très dures, mais j'ai tenu à l'adrénaline, en fait, je pense, parce que même le jour de la livraison, j'avais quasiment pas dormi, j'étais au taquet. Et par contre, le lendemain, mon corps m'a lâché, mon système immunitaire m'a lâché et j'étais un peu HS, mais ouais, au moment où j'ai tout monté et je l'ai regardé, c'est une bonne grosse dose de fierté, une petite larme et juste 30 secondes pour apprécier le moment parce que j'avais encore des éléments à ajouter pour que tout soit prêt dans les temps, en fait.
Ouais. Allez, une toute dernière question. Les réseaux sociaux sont assez importants pour vous parce que déjà vous êtes très drôle sur les réseaux sociaux. Vos vidéos sont très drôles. Mais c'est important pour la communication pour vous en fait. Est-ce qu'il y a un plan derrière ou c'est vraiment une histoire de se faire plaisir?
Oui, il y a un plan derrière en fait. De base, j'utilisais les réseaux sociaux pour partager mes gâteaux avec mes clients, avec des hobby bakers qui pourraient avoir un peu utiliser ça pour comme inspiration. Et aussi bien sûr pour atteindre de nouveaux clients éventuels. Donc au début j'étais très très sur Facebook, on va dire, parce que pour moi c'était beaucoup plus réel que Instagram où là c'est plus du fake, c'est des gens un petit peu partout dans le monde et en fait on va dire moi mes clients c'était des clients uppers que je voulais toucher. Et en fait maintenant je me tourne un petit peu plus vers Instagram parce que déjà Facebook c'est plein de pubs, même moi je scroll même plus vraiment mon Facebook en fait, plus personne ne poste, donc on sait plus c'est quoi publicité, pas publicité. Et par contre Instagram maintenant ça va m'être plus utile parce que j'ai des projets que j'essaye de mettre en place. Déjà j'enseigne des classes de cake decorating uppers en personne, je fais ça en groupe ou en privé. Et en fait, dans mes futurs projets, j'aimerais faire des classes en ligne. Donc ça pourrait viser tout le monde, enfin partout dans le monde, quoi. Et je veux aussi commencer à vendre quelques produits pour des gens qui souhaiteraient faire des gâteaux. Donc ça, c'est dans mes projets de cette année. Et donc pour ça, maintenant, il faut que j'atteigne des gens. Donc voilà, un petit peu partout dans le monde. Et c'est vrai que ces derniers mois, Instagram a un petit peu changé avec les réels et en fait en faisant des réels qui en effet sont un peu drôles, ça m'a permis d'atteindre énormément de monde sur les réseaux sociaux. En juste quelques mois, je suis passée de 2000 followers à à 25 000 grâce à mes, à mes petites vidéos rigolotes. Mais j'ai décidé de passer un petit peu moins de temps sur ces vidéos parce que c'est très time consuming et bah, je préfère me concentrer sur mes gâteaux quand même.
Eh ben, on rigolera moins, c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, c'est un plaisir de vous parler. Sarah, ça fait un petit moment que je vous suis et ça m'a, je suis toujours impressionné par les gâteaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver justement ou sur Instagram, quel est votre nom, comment on vous trouve, si les gens sont curieux d'avoir un petit peu un regard sur ce que vous avez fait et ce que vous pouvez faire.
Oui, bien sûr. Alors, mes premiers followers me connaissaient en tant que Fantasy Cake. C'était mon business name de base. Personne ne s'en rappelait, ne pouvait le prononcer ou l'épeler. Donc, je l'ai changé en début d'année. Et j'utilise maintenant mon nom, donc Sarah Valette Cake Artist, sur Facebook, Instagram. Et d'ici un mois, mon nouveau website sera prêt. Donc, ce sera juste sarahvalette.com. Voilà, .com. Voilà.
D'accord. Merci Sarah, c'était un plaisir de te parler.
Merci beaucoup.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Pendant un an, Lionel a parcouru les routes australiennes au guidon de son vélo. Il a fait le tour de l'Australie et après plus de 15 000 km et un an de voyage, il nous raconte son aventure au micro de SBS.
J'étais à Perth, c'était l'hiver, il faisait froid et humide. J'avais fait déjà un voyage à vélo de Saint-Brévin-les-Pins à l'embouchure de la Loire jusqu'à Budapest en 2019. Et je voulais m'échapper de l'hiver. Les frontières étaient fermées à cause du Covid. Elles venaient juste de rouvrir entre les régions de WA. Donc je voulais aller où il faisait le plus chaud possible. La frontière étant fermée avec Northern Territory, le plus loin où je pouvais aller, c'était Canonara. C'est à l'extrême nord-est de Western Australia. Donc j'ai pris l'avion là-bas avec mon vélo dans une boîte. L'idée était de revenir à vélo à Perth pour l'été. Donc j'aurais ramené l'été. Ça faisait 3700 km, je crois. Ça devait prendre quelques mois. Quand je suis arrivé à Perth, eh bien, ça m'a tellement plu que j'ai continué. L'idée étant d'aller jusqu'à la frontière avec South Australia, à Eucla. Ça aurait fait en tout 6200 km. Et avant que j'arrive là-bas, la frontière a ouvert. Et finalement, toutes les frontières se sont ouvertes. Je n'ai jamais connu de lockdown, pardon, de confinement ou d'obligation de porter le masque. Pour moi, le Covid n'existait pas. C'était juste à la radio, à la télé ou par ma famille ou les amis. Donc j'ai décidé finalement de continuer, de faire tout le tour de l'Australie. Et tant qu'à faire, j'ai rajouté la Tasmanie. Et je me suis dit, tiens, il faut que je fasse tous les états et territoires. Donc je suis passé par Canberra aussi. Donc j'ai fait tout le tour. Voilà, et je suis retourné à Canonara au bout d'un an et 15 200 km.
15 200 km, ça se fait pas comme ça? Vous vous êtes préparé comment?
Je ne me suis pas préparé. En fait, je n'ai pas de voiture, je fais que du vélo, donc je fais peut-être 30 km par jour. Je danse beaucoup, la salsa et le tango, donc mes jambes sont préparées, c'est-à-dire que je danse jusqu'à 25 heures par semaine, donc je fais pas mal d'exercices. En fait, j'étais tellement peu préparé, même si j'essayais d'avoir le matériel et puis d'être sur les forums où j'ai eu des conseils. Et la seule chose qu'on ne m'avait pas dit, c'est que quand il fait très chaud, il est très important de prendre assez de sel, de chlorure de sodium. Et au bout de 3 jours, en fait, j'étais très malade, je n'avais plus de sel dans mon corps et en fait, j'étais en train de mourir sur le bord de la route. Et j'ai dû activer ma géobalise, on est venu me chercher et me ramener à mon point de départ. Donc j'étais dans le désert. Voilà, donc j'étais préparé, mais finalement pas tout à fait prêt. Une fois que j'ai compris qu'il fallait boire de l'eau salée plutôt que juste de l'eau, tout s'est bien passé.
On parle de préparation physique, mais il y a aussi la préparation psychologique. À quoi vous pensez pendant tous ces kilomètres, 15 000 kilomètres, sans voir qui que ce soit, être seul? On est face à soi-même, en fait, pendant tout ce temps. Vous écoutez de la musique, vous lisez même sur le vélo, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites?
Il y a des moments où il n'y a rien pendant plusieurs centaines de kilomètres, donc je dois économiser ma batterie, donc je n'écoute pas de musique et je ne lis rien. Ah si, j'avais quand même mon Kindle. J'ai dû lire plusieurs livres de Houellebecq, qui étaient assez déprimants en fait, surtout au début. En fait, je regarde le paysage, c'est comme une méditation, c'est de la méditation effectivement, pendant un an. Donc je dis souvent, au lieu de 50 shades of grey, c'est 50 million shades of red dirt, parce qu'en fait, autour, c'est que de la terre rouge, donc c'est assez monotone, les routes sont droites. Il y a quand même des voitures, j'ai commencé par la Gibb River Road, qui est une route assez mythique pour les caravanes. Donc c'est 800 km de ce qu'on appelle de tôle ondulée, Corrugated Road. Je n'étais pas seul finalement, j'ai rencontré des gens tous les jours, les gens s'arrêtaient même pour me demander comment j'allais. Ils étaient surpris, peut-être qu'en rentrant de vacances, ils ont dit à leurs amis « Ah, j'ai vu un cycliste pendant les vacances ». Parce qu'en fait, j'ai vu très peu de cyclistes.
Ah oui, c'est ça aussi, vous avez rencontré combien de cyclistes en total sur plus de 15 000 km?
Peut-être 20. Il y a très peu de cyclotouristes en Australie, en général ce sont des étrangers, mais comme les frontières étaient fermées, il n'y avait pas de touristes. Donc j'étais plutôt seul sur la route, ouais. Mais j'aimais ça, ça m'a permis de faire le point sur ma vie, c'était, je pense, très positif, très utile. Donc quand je suis parti, je devais avoir 52 ans, cette année seule m'a vraiment aidé. C'est un peu de l'introspection pendant un an.
Vous partez comme ça, 15 000 km, vous avez des doutes à un moment donné ou pas? Est-ce qu'à un moment vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien autour de moi, aux alentours j'ai 200 km derrière, 200 km devant, je suis seul. J'ai peut-être fait une bêtise. Est-ce que ça vous est arrivé de douter?
Non, pas une fois. En fait, je suis assez têtu. Quand je démarre quelque chose, je dois le terminer. Donc, non, pas du tout. En fait, ma vie était très simple. Je me levais le matin, je partais, je m'arrêtais, je me reposais, je mangeais, je repartais, je me reposais.
Et les conditions météo, vous avez toujours eu du beau temps ou vous avez eu des pluies diluviennes?
Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que c'est un voyage où j'ai eu énormément de chance. Premièrement, parce que j'ai échappé au Covid. C'est comme si le Covid existait dans mon imaginaire. Et en plus, le temps a été beau presque tout le temps. Un peu chaud au début dans le nord de l'Australie, jusqu'à 36 degrés. Donc je démarrais la nuit et je m'arrêtais le matin. Très vite, à partir de quelques mois, j'ai plus souffert du froid que du chaud. Et quand il a plu, oui, il a plu une semaine quand j'étais en Tasmanie et je suis resté chez les personnes qui m'avaient gentiment invité. Quand il pleuvait, en général, je m'arrêtais, mais il pleut peu finalement en Australie. La journée la plus difficile était sur le Nullarbor. Le Nullarbor, c'est une plaine mythique qui fait peur aux Australiens dans leur imaginaire collectif. C'est un endroit où on va tomber en panne d'essence et on va mourir. Mais en fait, il y a toujours des gens, il y a des stations-service bon, qui ne sont pas très rapprochées les unes des autres. Donc ce jour-là, j'avais 70 km à faire avec un vent de face de 45 km/h. Donc c'était le jour le pire et je me souviens que je riais en me disant « Mais c'est pas possible !» Qu'est-ce que c'est difficile Mais bon, je savais qu'il y avait une roadhouse qui m'attendait un petit peu plus loin. Mais bon, c'est vrai que c'était... Je me souviens d'une journée très difficile, oui. Je suis arrivé épuisé.
Et quelle est la partie d'Australie qui vous a le plus marqué? Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous avez des rencontres particulières qui vous ont plus marqué pendant cette année?
Les endroits que j'ai vraiment aimés, je me suis aperçu que j'adore l'outback, donc c'est-à-dire le désert australien, donc ces routes où il n'y a rien autour, juste de la terre rouge, un peu de végétation, le ciel en général bleu. Je trouve ça magnifique, je trouve ça bien plus agréable que quand il y a des constructions autour. Donc je ressens la paix intérieure à ce moment-là. Par rapport aux gens, alors j'ai vraiment été touché par la gentillesse des gens. Je pense que c'est le plus important que j'ai rencontré. Alors il faut dire que j'ai fait ce challenge, ce que j'appellerais un challenge, aussi pour récolter des fonds pour un organisme de charité qui s'appelle RFDS, Royal Flying Doctor Service, les docteurs volants. Je pense l'organisation caritative la plus réputée en Australie. Alors peut-être pas dans le sud de l'Australie, où il y a beaucoup d'hôpitaux autour de Melbourne ou Sydney, mais plus dans Western Australia, Queensland et Northern Territory. Donc comme je récoltais des fonds pour une œuvre de charité, ça m'ouvrait les portes, les gens m'offraient à manger, à boire, m'héberger. J'étais tout de suite accepté comme l'un des leurs. Alors un jour sur la Gibb River Road, Il faisait très chaud, je pense qu'il faisait 36 degrés, ça faisait déjà 4 heures que je roulais et j'avais encore 4 heures devant moi. Sinon, j'aurais rôti sur le bord de la route et je savais qu'il y avait une, ça s'appelait je crois Gibb River Station, un peu plus loin, où j'aurais eu une vraie ombre et de l'eau. J'étais sur le bord de la route, sale je pense, je ne m'étais pas lavé depuis plusieurs jours, c'est très sableux. Donc c'est du sable assez épais pendant plusieurs centaines de kilomètres. Et j'avais l'air épuisé et c'est ce couple charmant s'est arrêté pour me faire un déjeuner. Et je les ai revus plusieurs jours après, avant d'arriver à un camping. Et ils sont arrêtés, ils m'ont reconnu. Et la dame est arrivée pour me donner le reste du pudding qu'elle avait fait, qu'elle avait remarqué que j'avais bien aimé. Elle m'a donné le reste de son pudding. C'était des gens charmants et je leur ai dit, donnez-moi votre numéro de téléphone quand je passerai par chez vous. Donc c'était Margaret River, je viendrai vous inviter à dîner. Donc je suis allé les voir plusieurs mois après et je les ai invités à déjeuner parce que dîner c'était pas possible, mais ils m'ont gardé 3 jours, c'était pour me présenter à leurs amis. Ils parlaient français, donc c'est la première coup vraiment qui m'a vraiment marqué. Et la deuxième personne qui m'a marqué, c'était dans le nord, au milieu du Northern Territory. Il faisait très froid, il devait faire 4 degrés, j'étais dans ma tente, mon sac de couchage et mes habits suffisaient à peine. Vraiment, j'avais très froid et j'entends une voix qui me dit « Vous voulez une couverture ?» Je me suis dit « C'est pas possible, c'est un ange qui vient me voir. » Donc j'ouvre la fermeture éclair de ma tente. Il y avait cette femme qui me dit « Ah, j'ai pensé que vous aviez froid et que vous avez peut-être besoin d'une couverture. » Je dis « Ah oui, s'il vous plaît. » Elle m'a apporté des couvertures. Je trouvais ça vraiment gentil.
Donc c'est une aventure humaine avant tout.
Je pense que c'est avant tout une aventure humaine, oui.
Question un peu plus légère, combien de crevaisons ?
Une vingtaine peut-être. Alors je me souviens un jour, je partais, donc c'est dans Northern Territory, je partais de Cloncurry jusqu'à Mount Isa, donc c'est vraiment au milieu. Et j'ai eu 3 crevaisons, l'une après l'autre, c'est-à-dire que quand je réparais, en fait je continuais, au bout de 100 mètres, j'étais déjà à plat, donc c'est 3 fois, et donc j'ai dû retourner, parce que ça m'a pris quand même des heures, parce que j'ai une toute petite pompe. Alors j'essaie de trouver une personne avec un compresseur ou une pompe plus rapide. Donc je suis retourné à Cloncurry. Et le matin quand je suis parti, la même chose, j'ai eu à nouveau 3 crevaisons. Heureusement j'avais de l'eau, j'ai pu voir qu'il y avait 3 trous. Donc j'ai dû rouler sur du verre cassé. Et donc j'avais 6 trous dans ma chambre arrière.
Pour pouvoir réparer votre vélo pendant tout le long de votre périple, je suppose que vous avez du matériel, vous aviez votre tente, sac de couchage. Est-ce que vous avez une idée du poids du vélo, de tout le matériel que vous avez embarqué ?
Oui, alors il me fallait beaucoup d'eau, donc j'avais à peu près 12 litres d'eau et j'avais de la nourriture pour plusieurs jours en général, peut-être 5 jours. Tout compris, c'était 45 kilos, donc ça c'est lourd.
Face au vent, à 45 km/h.
Voilà. Mais bon, l'Australie est en général plate, sauf la Tasmanie qui n'est plate que sur la carte. Et j'ai fait tout le tour, de Canonara jusqu'à Perth. Après, à partir de Perth, j'ai fait le Mundabidi, qui est une piste de 1000 km pour les vélos, qui va jusqu'à Albany. Apparemment, c'est la plus grande longue piste de VTT du monde. C'est ce que disent les Australiens. Et après, j'ai continué jusqu'à Esperance. J'ai traversé Nullarbor jusqu'à la Eyre Peninsula. Je suis allé à Port Lincoln. Après, je suis allé à Adelaide. J'ai continué, j'ai fait la Great Ocean Road jusqu'à Melbourne. Après, j'ai traversé en ferry, j'ai fait le tour de la Tasmanie. Je suis allé à Bruny Island, en Tasmanie. Après, j'ai continué, j'ai pris le Hume Highway. Alors, quand on part de Melbourne jusqu'à Sydney et au nord, on doit traverser une chaîne de montagnes qui est Great Dividing Range. J'ai voulu prendre la partie la plus plate. Et le Hume Highway, c'est une autoroute qui est vraiment plate, très large. Il y a une bande d'arrêt d'urgence très large. Et c'est vraiment très sûr, bon, un peu bruyant. C'était surtout quand, je crois que c'était vendredi de Pâques, il y avait énormément de voitures. Et Canberra, Sydney, donc en passant par le Royal National Park. Et à partir de Sydney, j'ai continué au bord de l'eau, où c'est de la piste. Donc les voitures ne passent pas, elles prennent l'autoroute. Moi, j'ai continué au bord de l'eau jusqu'à la frontière avec le Queensland. Et à partir de donc c'est vers Gold Coast. Voilà, donc là, j'ai pris le train parce qu'on m'a dit que c'était très dangereux. Et c'est vrai, il n'y a pas de voie pour les vélos. Donc j'ai pris le train un peu avant Brisbane jusqu'à Sunshine Coast. Et là, je suis remonté jusqu'à Rockhampton. Et là, j'ai traversé jusqu'à ça s'appelle Three Ways. C'est l'endroit où ça s'appelle Capricorn Highway rencontre le Stuart Highway. Là, donc, je suis allé jusqu'à Catherine et de retour à Canonara.
Vous arrivez, vous avez envie de repartir, ou qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Au bout d'un an?
Oui.
Ah, au bout d'un an, je me dis non, ça suffit. Vers la fin, j'en avais un peu assez. Je me dépêchais de terminer parce que un an, c'est long. 15 000 km, c'est long. Après, on a le choix. Je veux dire, si on a fait 15 000 km et qu'on continue, on va continuer de pédaler toute sa vie. Et je me suis dit non, je vais retourner à une vie normale.
Vous faisiez combien de kilomètres par jour?
Juste, le maximum, c'était 188 km. C'était de Ravenshope jusqu'à Espérance. J'avais une tempête derrière moi, donc elle m'a bien poussé. Donc 188 km, c'est pas mal.
Merci beaucoup Lionel de nous avoir fait partager votre aventure extraordinaire. Et c'est une belle aventure avant tout humaine. Encore merci Lionel d'avoir accepté notre invitation sur SBS.
Merci Thomas.
Le rappel de ce titre, des titres de ce samedi 14 mai, Scott Morrison a annoncé 20 millions de dollars dédiés au programme sport des écoles et l'opposition répond avec Anthony Albanese qui propose 750 millions de dollars à Medicare pour améliorer la qualité des soins et une meilleure prise en charge des patients. Le Queensland est à nouveau menacé par d'importantes inondations et la Finlande, la Suède souhaitent intégrer l'OTAN. La Turquie, membre de l'Alliance, propose une fin de non-recevoir. Merci d'avoir passé cette heure avec nous sur SBS, votre programme en français. Vous retrouverez Jean-Noël Ducasse demain à partir de 13h. Vous pouvez réécouter à l'infini tout le contenu d'SBS, le programme en français, sur le site internet de sbs.com et ainsi que sur toutes les différentes plateformes. Passez une excellente journée avec SBS.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.